Restez avec nous dans quelques secondes. Votre journal de 19h, on va revenir sur l'épidémie qui flambe en Haute-Corse. C'est le préfet qui impose de nouvelles mesures. 19h15, le conseil lecture de Stéphane Place. 19h20, le club des idées après l'affaire Pegasus. On va s'intéresser ce soir à la cybercriminalité du quotidien. Les hôpitaux, les entreprises peuvent être une cible. Comment faire pour s'en prémunir? 39-21, vous prenez bien sûr la parole. Mais d'abord, toute l'info avec Sophie Cussereau. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Bon début de soirée sur Europe 1. Il est 19h.
Il y a beaucoup d'émotions, reparler de cette douleur qui reste vibrante à l'intérieur de nous et qui ne cessera jamais.
Saint-Étienne du Rouvre est frappé il y a 5 ans par la barbarie islamiste. Un hommage a été rendu aujourd'hui au père Jacques Hamel, égorgé dans son église près de Rouen.
L'extension du pass sanitaire a été définitivement votée hier par le Parlement. Pour autant, la loi ne peut pas être encore appliquée. C'est le Conseil constitutionnel qui doit décider de la légalité des dispositions adoptées.
Emmanuel Macron, accueilli aux îles Marquises en grande pompe. Il est le premier président français à se rendre dans l'archipel. 600 danseurs et musiciens pour saluer la présence du chef de l'État qui a appuyé une inscription des îles au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les Jeux Olympiques de Tokyo avec pour la première fois de l'histoire une championne de skateboard féminin. C'est une jeune japonaise de 13 ans qui a décroché l'or. La tendance météo, Marlène Duré.
Encore une belle journée près de la Méditerranée demain, mais aussi de la vallée du Rhône à l'est de l'Occitanie. Un temps qui va contraster avec les averses sous un ciel bien chargé sur le moitié nord-ouest du pays et où les températures seront en légère baisse.
Point complet à la fin de cette édition.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y a 5 ans, le père Jacques Hamel était assassiné, égorgé par 2 djihadistes dans son église de Saint-Étienne du Rouvray près de Rouen.
Un hommage lui a été rendu ce matin en présence de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, d'élus et de fidèles pour saluer la mémoire de l'homme d'église mais également du citoyen engagé. Un travail de mémoire cher à Roselyne Hamel, la sœur du prêtre. Elle a confié son émotion à Europe 1.
Cette fin de vie d'un prêtre dans la fonction de son sacerdoce, fait d'atroces violences, ça n'aurait aucun sens de ne pas se souvenir, commémorer ce jour pour un homme si discret, si plein de simplicité, d'humilité, qui se mettait toujours hors de portée des honneurs. Une journée comme aujourd'hui, tout cela se réveille et reparler de cette douleur qui reste vibrante à l'intérieur de nous et qui ne cessera jamais. Il y a beaucoup d'émotions qui dégagent de tous ceux qui sont présents et on sent la présence vraiment du père Hamel à cet hôtel où il a versé son sang. Je ressens quand même une grande fatigue parce qu'il faut montrer beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour rester digne comme lui.
Roselyne Hamel, la sœur du père Jacques Hamel, avec Caroline Baudry pour Europe 1.
Très fort témoignage. Dans l'actualité également, la barre des 40 millions de primo-vaccinés qui a été franchie, ce qui représente 60% de la population. On continue à tweeter Emmanuel Macron est actuellement en déplacement en Polynésie.
Une vaccination importante au vu de la progression du virus. La Haute-Corse est le département où l'incidence est la plus élevée. Et pour freiner cette flambée, elle a décidé de prendre de nouvelles mesures. À partir de demain, les rassemblements de plus de 10 personnes sur la plage sont interdits dès 21h. Dès le 1er août, les établissements recevant du public fermeront à minuit. Les événements de recevant plus de 50 personnes devront également être déclarées. Pour François Ravier, le préfet de Haute-Corse, il s'agit de limiter les contacts dans les zones les plus touristiques.
Il s'agit évidemment d'endroits dont la population est multipliée entre 3 et 4, parfois 7 à 8, pendant la période touristique. D'où l'idée de prendre rapidement des mesures. La venue en Corse est liée à la détention d'un pass sanitaire. Donc, a priori, arrivent en Corse des personnes qui n'ont pas été infectées par le Covid. La population corse est effectivement, pour l'instant, proportionnellement la plus touchée, nettement plus, ce qui résulte d'événements festifs familiaux, les baptêmes, les mariages, bien entendu, les anniversaires. Là, c'est effectivement le risque de saturation du système hospitalier de la Haute-Corse, qui, on le sait, est déjà sous tension l'été. Les mesures sont en vigueur pour maximum 2 semaines, et au bout de chacune des semaines, on évalue l'évolution de la situation sanitaire. Est-ce qu'on est encore en phase d'accélération? Si oui, parmi les mesures possibles, ce serait la fermeture à minuit des restaurants et des bars et des établissements de plage.
Le préfet de Haute-Corse avec Joanna Chabas pour Europe 1.
C'était le feuilleton politique et législatif du week-end, l'examen du projet de loi sur l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants.
Et après de longs débats et un accord entre les députés et les sénateurs, le texte a officiellement été adopté hier soir par le Parlement. Pour autant, Louis de Raguenel, la loi ne peut pas être tout de suite appliquée. Le dernier mot revient au Conseil constitutionnel.
Oui, texte adopté, mais pas encore appliqué. Pour une simple raison, après avoir été saisi à la fois par la gauche et le gouvernement lui-même, il faut que le Conseil constitutionnel donne son avis sur le texte. L'institution, présidée par Laurent Fabius, a fait savoir qu'elle rendra sa décision le 5 août. Donc d'ici là, tout ce qui a été voté ne peut pas entrer en application et il est tout à fait possible que certaines mesures contenues dans la loi soient retoquées ou modifiées. Ce n'est qu'ensuite que le gouvernement pourra promulguer la loi, ce qui la rendra effective immédiatement. Les sages devraient s'intéresser notamment à l'isolement de 10 jours obligatoire pour toute personne infectée par le virus, mais aussi à la question des retenues sur salaire pour les salariés en relation avec du public qui refusent de se faire vacciner. Pour terminer, il faut bien rappeler que le pass sanitaire s'obtient soit par un test négatif, soit avec une attestation de vaccination ou un certificat de rétablissement.
Louis de Raguenel du service politique d'Europe 1.
Emmanuel Macron poursuit sa visite en Polynésie après Tahiti. Hier, le président était ce matin aux îles Marquises.
Et c'est la première fois qu'un chef d'État français se rend dans l'archipel. Il est allé sur les tombes de deux grands artistes, le chanteur Jacques Brel et le peintre Paul Gauguin, avant une cérémonie d'accueil. Notre envoyé spécial Claudia Bertram a suivi la visite pour Europe 1.
Comme le veut la tradition marquisienne, c'est escorté de cavaliers qu'Emmanuel Macron arrive dans le stade face à l'océan. Il le traverse au milieu de centaines de danseurs en tenue traditionnelle faite de feuilles effilées. Ils sont venus des 6 îles de l'archipel et offrent au président un Mawe Mai, une danse d'accueil au rythme des percussions polynésiennes. Une Marseillaise est entonnée avec les Marquisiens tous tournés vers l'océan avant quelques mots de bienvenue de la maire de la commune d'Ivaoa.
Monsieur le président de la République, vous nous faites l'immense honneur d'être le premier chef d'État à venir aux îles Marquises. Merci. Bienvenue chez nous, bienvenue en terre des hommes et bienvenue chez vous.
Emmanuel Macron se voit attribuer un nom marquisien qui veut dire « le grand chef qui marche et qui ira loin ». Haka et danse au sol traditionnel se poursuivent. Et puis, sur une tribune aménagée sur de grandes pirogues, le président s'engage à se battre pour la candidature des îles Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Cette nature, cette biodiversité, c'est votre vie. Ce sont vos paysages, ce sont vos oiseaux, ce sont nos paysages, ce sont nos oiseaux. Et se battre aussi pour ces traditions, cette culture, ces civilisations que vous portez et que vous honorez.
Alors que la nuit est tombée, le président se rendra demain sur le site archéologique Upeke, l'un des sites que les marquisiens veulent voir protéger. Ivaoa, Claudia Bertram, Europe 1.
19h08.
Une patrouille de police prise pour cible hier soir à Bonneuil-sur-Marne, près de Paris, vers 19h. L'équipe est visée par des tirs de mortiers d'artifice.
Trois policiers ont été blessés par l'engin incendiaire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu dans moins d'une heure maintenant au commissariat de Créteil pour leur apporter son soutien, Gladys Laffitte.
Oui, Gérald Darmanin qui a affiché son soutien aux fonctionnaires dès hier soir. L'État répondra fermement à ces actes violents contre nos policiers, a-t-il tweeté. Le ministre de l'Intérieur qui a d'ailleurs fait du combat contre les rodéos urbains l'une de ses priorités. Depuis le début de l'année, 704 personnes ont été interpellées et 953 engins ont été saisis. C'est justement suite à un rodéo de moto que ces policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, sont intervenus hier soir à Bonneuil-sur-Marne. Il était 19h, ils patrouillaient dans leur voiture. Une quarantaine de personnes étaient présentes quand l'une d'elles a tiré à bout portant un mortier d'artifice qui a atterri dans la voiture des policiers par la fenêtre arrière qui était baissée. L'engin incendiaire a explosé dans l'habitacle. Un policier a été brûlé dans le dos. Ses deux collègues plus légèrement par la déflagration. Une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil pour identifier les auteurs. 6 personnes ont déjà été interpellées hier soir, juste après les faits.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Jean Castex annonce ce soir une une hausse du budget du ministère de l'Intérieur de plus de 900 millions d'euros pour l'année prochaine.
Le Premier ministre qui affirme que la promesse d'Emmanuel Macron de créer près de 10 000 postes de policiers et de gendarmes au cours de son quinquennat sera tenue. 885 emplois supplémentaires verront le jour l'année prochaine.
Et puis le feu dans l'Aude sur la montagne d'Alaric est fixé. 850 hectares ont été ravagés.
300 pompiers maintiennent un important dispositif de surveillance pour éviter que cet incendie, le plus important depuis le début de l'été, ne reparte.
On s'intéresse à présent aux Jeux de Tokyo. 5 médailles au total pour la France. Manon Sabré décroche le bronze en escrime et en judo. Sarah Léonie Sizik remporte l'argent dans la catégorie des moins de 57 kilos.
Mais ce qui a marqué les esprits aujourd'hui, c'est la victoire d'une très jeune fille, une adolescente japonaise, qui remporte la toute première médaille d'or de skateboard féminin de l'histoire des Jeux Olympiques. Simon Rubin.
Oui, place à la jeunesse. C'était ce que le CIO voulait en invitant le skateboard pour la première fois au jeu. Rajeunir l'audience à la fois devant la télé, mais aussi l'audience des participants. Alors pour le coup, c'est complètement réussi. 14 ans de moyenne d'âge sur le podium du skateboard féminin. Et donc une championne olympique, Momiji Nishiya, de 13 ans, qui est toute jeune mais qui a déjà un très beau palmarès, notamment du côté des X Games, ces grandes compétitions internationales. Et ça donne donc un sacré coup de jeune au jeu. Aujourd'hui, il y avait 44 ans d'écart entre le plus vieux champion, c'est du skeet, c'était en tir à la carabine, 57 ans, et Nishiya Momiji, donc. À 13 ans, elle est la plus jeune médaillée d'or olympique de l'histoire. Alors, presque la plus jeune. Ça se joue à 60 jours près avec Marjorie Gestring, qui avait, elle, gagné le plongeon. Mais c'était à une autre époque, c'était en 1936. Nishiya Momiji, championne, donc à 13 ans, imaginez. Elle a de quoi voir venir encore les prochains Jeux Olympiques là, dans les années à venir. Ça promet un sacré palmarès.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Et notez que c'est bien Manon Brunet qui a décroché le bronze en sabre. On part, Sophie, danser à présent dans une boîte de nuit un peu différente. Un club qui a rouvert exclusivement pour les personnes âgées et vaccinés.
Oui, ces personnes qui peuvent reprendre le chemin du Vegas à Saintes en Charente-Maritime, fermé il y a un an et demi. Le patron a fait le choix il y a 15 jours de ne rouvrir qu'une salle annexe pour permettre aux seniors qui ont reçu leurs deux injections de danser tous les dimanches après-midi en toute sécurité. Un reportage de Laura Taouchanoff.
Bienvenue au Vegas. Ici, les danseurs laissent leur masque au vestiaire. Ambiance tamisée, les lumières s'affolent. L'orchestre est lancé, Pierre entre en piste.
Tant que je pourrai balancer les hanches, je viendrai. Le jour où je ne pourrai plus les balancer, je reste à la maison.
François, c'est la première fois que vous venez ?
Oh que non, ça fait 25 ans qu'on vient tous les dimanches. C'est ici que j'ai rencontré mon compagnon.
Après un an et demi de fermeture, Monique a un peu de mal à se réapproprier son corps.
Et c'est dur de reprendre à danser parce que si on chaussait mais pas des talons, on a repris un petit peu de poids aussi pendant le confinement, c'est plus ça.
Et vous y allez pas monsieur?
Ouais, pour l'instant il y a je trouve pas de danseuse avec qui je pourrais m'accorder, alors voilà.
Ah, vous allez trouver je pense.
C'est même sûr.
Jacques et Martine profitent d'une activité sans risque. Ici tout le monde ou presque a ses deux doses.
Ça nous rassure.
Ouais, les jeunes disaient à la télé, les vieux ils ont qu'à rester chez eux et pas venir nous emmerder. Les vieux sont vaccinés, les jeunes ils ont qu'à rester chez eux.
Et c'est donc le prix de cette insouciance. À l'entrée, certains danseurs non vaccinés ou non testés repartent bredouilles avec leurs robes et leurs nœuds papillons.
Laura Taouchanoff au Vegas à Saintes pour Europe 1.
C'était le journal de Sophie Tussaud qui revient bien sûr à 20h. Tous à Vegas, y compris Marlène Duré, avec encore des averses dans le nord et du soleil en Méditerranée.
Oui, et Vegas, le pourtour méditerranéen sera tout aussi ensoleillé. Sur la partie est de l'Occitanie, en vallée du Rhône aussi, donc il fera beau. Un petit peu de grisaille quand même qui peut circuler sur la Côte d'Azur au lever du jour. Et puis après une matinée ensoleillée sur les Pyrénées, le ciel va devenir nuageux avec un risque d'averses sur le relief. Averses qu'on va retrouver aussi sur le relief des Alpes, surtout dans le sud, jusque dans l'arrière-pays niçois. Et puis de l'Aquitaine au Massif central en remontant vers la Franche-Comté, l'Alsace. Là, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Ça, c'était pour le mieux. Maintenant, le moins bien sur le reste du pays.
Alors.
Ciel chargé qui va donner beaucoup d'averses, quelques coups de tonnerre très localement, des éclaircies qui se dessineront plus ou moins tardivement. Et ça va concerner, écoutez bien, les régions allant de la frontière belge et luxembourgeoise au Poitou-Charentes, à l'ouest de la Bretagne, en remontant vers les régions proches de la Manche, en passant par une partie de la Bourgogne, le centre-val de Loire et l'Île-de-France.
Voilà, la pointe bretonne et la pointe du Cotentin profiteront d'éclaircies plus larges en journée. Les températures, alors, ça bouge pas beaucoup, sauf dans le nord-ouest, elles baissent évidemment. Nous aurons, au meilleur de la journée, 19 degrés à Boulogne-sur-Mer, 21 à Orléans, 22 degrés à Lille, à Nantes et à Limoges, 23 à Paris et Saint-Jean-de-Luz, 25 à Strasbourg, 28 à Lyon et Toulouse, 29 à Grenoble et puis comptez 27 à 32 degrés autour de la Méditerranée.
Merci beaucoup Marlène Duré.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et tous les soirs de l'été, rendez-vous pour une découverte littéraire avec Stéphane Place, en partenariat bien sûr avec la librairie Mola à Bordeaux. Ce soir, Frères d'âme, c'est signé David Diop.
Ce texte de moins de 150 pages vous happe littéralement et vous plonge dans l'horreur des tranchées de la Première Guerre mondiale. C'est là que deux tirailleurs sénégalais font face aux lignes allemandes lors d'un assaut. Alpha Ndiaye voit son ami d'enfance, Mandamba, sérieusement touché. Son plus que frère le supplie de l'achever à trois reprises avant de succomber à sa grave blessure. Hanté par l'agonie de son compagnon dont il n'a pas pu abréger les souffrances, Alpha Ndiaye va tenter de se racheter. Une longue confession sombre, l'absurdité de la guerre, la folie des hommes. Frères d'âme est un livre époustouflant. Helga Panier, libraire chez Mola.
Il y a une sorte de lancinance tout au long du texte. Beaucoup de répétitions sur ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce dont il se souvient, parce qu'il y a évidemment le manque du pays. Il nous parle souvent d'une femme qu'il aime et qu'il aimerait revoir, mais là, il est dans un univers en fait tellement violent. C'est les seules choses qu'il utilise en fait pour se raccrocher au peu d'humanité qu'il a. Et petit à petit, en fait, cette humanité va partir. Et tout ça, Diop le décrit crûment. Et finalement, en fait, il fait quelque chose de très important, ce qui est juste d'interroger le lecteur. Qui est le plus cruel ? Est-ce que c'est l'homme qui devient fou parce que traumatisé et vulnérable ? Ou bien est-ce que c'est le système, l'état-major, qui envoie des milliers d'hommes dans une guerre sanguinaire ?
La nuit, tous les sangs sont noirs, peut-on lire dans Frères d'âme, le second livre de David Diop.
Ça m'a paru important de jeter une lumière un peu personnelle et un peu intimiste aussi sur le sort des tirailleurs sénégalais. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi un psychorécit, c'est-à-dire le récit des pensées de ce tirailleur qui va devenir fou au milieu de cette grande boucherie qu'est la Première Guerre mondiale. L'inspiration du livre me vient de la lecture de Lettres de Poilu. En 98, il y a un livre qui a été publié chez Librio, qui rassemble des lettres de Poilu, des lettres écrites par des jeunes gens qui n'ont peut-être pas plus de 20 ans, qui ne savent pas qu'ils vont mourir quelques heures ou quelques jours après avoir écrit ces lettres. Et cette charge émotionnelle que j'ai eue en lisant les lettres des Poilu, j'ai essayé de la transmettre en fait dans ce récit des pensées de ce jeune homme qui devient fou parce que son ami meurt très vite au début du roman.
Et après le succès international de Frères d'âme, lecture vraiment incontournable, David Diop publie cet été un nouveau roman dont le titre est « La porte du voyage sans retour », un surnom donné à une île d'où sont partis des millions d'Africains au temps de la traite des Noirs.
Stéphane Place en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux.
Europe 1, Thierry Dagiral.
19h17, dans un instant, on ouvre le club des idées, entreprises et hôpitaux hackés. La cybercriminalité ne touche pas que les grandes puissances ou les grandes ce monde. Comment s'en prémunir ? On en parle ce soir avec vous. Bien sûr, 39-21, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et on ouvre le débat du club des idées ce soir. On va s'intéresser aux cyberattaques. On a vu récemment, bien sûr, l'affaire Pegasus, logiciel espion qui aurait pu infecter le téléphone d'Emmanuel Macron. Mais plus récurrent, des hôpitaux, des entreprises sont devenues la cible des pirates, cette fois demandant des rançons pour accéder aux données. Alors comment se prémunir et que faire en cas de cyberattaque ? On va en parler ce soir avec Guillaume Tissier, qui est directeur associé de Avisa Partners, cabinet de conseil en intelligence économique, spécialisé cyber et président du Forum international de la cybersécurité. Bonsoir.
Bonsoir, merci co-organisateur du forum.
Parfait, merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1 avec Bernard Barbier, ancien directeur technique de la DGSE. Bonsoir Bernard.
Bonsoir.
Et puis avec Jean-Claude Tapia, président d'Atos Digital Security. Bonsoir à vous également.
Bonsoir à tous.
Bernard Barbier, première question à vous. Pegasus a fait les gros titres la semaine dernière. Là, c'était une affaire d'espionnage, mais c'est révélateur de notre vulnérabilité face aux cyberattaques. Il n'y a pas que les États, finalement.
Non, je pense que tout le monde est vulnérable, puisque maintenant, nous sommes tous dans un monde numérisé, comme on peut dire, donc avec nos téléphones portables, l'Internet et tout. Donc, tout le monde est attaqué, parce que tout le monde est vulnérable. Maintenant, il y a des, je dirais, les méchants, les hackers, ouais, ont automatisé leur système. Donc, en fait, il y a des attaques qui sont quasiment automatisées. On voit bien que, dans certains cas, il y a des petites entreprises qui sont attaquées. Les attaquants ne savent même pas à qui ils ont affaire, en fait. Mmh. C'est des outils quasiment automatiques
et
qui attaquent les entreprises.
C'est difficile de remonter justement jusqu'à la source.
Ah oui, c'est souvent très difficile parce qu'il y a plusieurs niveaux de, je dirais, les experts en fait peuvent s'anonymiser en passant par exemple dans le dark web. Oui. Donc c'est souvent très difficile. Pour remonter à la source, il faut vraiment être au niveau des États là.
Juste quelques chiffres pour bien fixer les choses pour ceux qui nous écoutent. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, le pompier finalement informatique de l'État, a été appelé à 192 reprises en 2020, soit une intervention tous les deux jours pour des faits liés au rançongiciel. C'est un nombre multiplié par 4 par rapport à 2019 où elle était intervenue à 54 reprises. Ça veut dire quoi? Qu'on est vraiment sur des faits de plus en plus récurrents, Bernard Barbier?
Oui, je crois que oui. En sachant qu'en plus, l'ANSSI, l'Agence nationale, n'est appelée que pour des faits très graves, en fait. Hein. Il y a beaucoup de faits très peu graves, en fait, qui restent simplement, même souvent, les gens ne portent pas plainte. En fait, il y a une augmentation exponentielle des attaques liées effectivement à la crise et le fait que les gens étaient chez eux, travaillaient de chez eux sur leur ordinateur. Ouais. Mais c'est aussi que nous sommes de plus en plus vulnérables, en fait. Hein. Il y a quasiment une industrialisation du crime, du cybercrime, qui est en train de se produire.
Quand vous dites les gens ne portent pas de plainte, ça veut dire quoi? Qu'on n'ose pas, parce que c'est un signe de faiblesse, parce que finalement, ben, on se débrouille, ou parce qu'on paie la rançon, tout bêtement?
Oui, je pense que bon, il y a des petites entreprises, elles, qui payent la rançon parce qu'elles n'ont aucun recours, leur sauvegarde ne fonctionne pas. Donc, et puis pour les particuliers, je pense que le fait de porter plainte souvent est compliqué. Mmh. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne portent pas plainte, mais c'est pour des petites infractions en fait. Mmh. Hein.
Et vous disiez encore une chose à l'instant, c'est que le télétravail a accentué les choses.
Oui, parce que tous les gens, d'un seul coup, il y a des millions de gens qui sont retrouvés chez eux avec leur ordinateur connecté à leur entreprise. Pour mettre en place ce télétravail en quelques semaines, toutes les règles de sécurité n'ont pas toutes été mises en place tout de suite. Donc il y a eu effectivement malheureusement des failles. Et puis aussi, les gens n'étaient pas bien formés. Je pense que beaucoup de gens n'ont finalement pas bien appliqué les règles de sécurité. Donc il y a eu énormément d'attaques qui ont été liées à ce télétravail en fait.
Bernard Barbier, ancien directeur technique de la DGSE, vous restez bien sûr avec nous. Je me tourne vers vous, Guillaume Tissier. Je rappelle que vous êtes directeur associé de Avisa Partners, cabinet de conseil en intelligence économique. On parlait à l'instant des petites entreprises, des PME. Vous avez des cas concrets de PME qui ont été visées par ces cyberattaques?
Oui, on a des cas concrets. C'est vraiment l'angle mort aujourd'hui dans la prise en compte de ce phénomène. Angle mort parce que ce sont des entreprises, qu'il s'agisse de PME, d'ETI même parfois, qui n'ont pas depuis quelques années mis en place la gouvernance, les analyses de risque, les dispositifs techniques, parce qu'elles n'en avaient pas les moyens, parce qu'elles n'étaient pas sensibilisées, que souvent la priorité c'est le business.
Exactement.
C'est normal.
On n'investit pas forcément sur ça.
Et du coup, c'est vrai que c'est un peu l'angle mort, et on a vu d'ailleurs à l'occasion de la crise de Covid, qu'il y avait une forme d'inégalité finalement entre ces petites entreprises et les grosses. Les grosses avaient déjà fait le pari du cloud computing depuis des années. Elles ont donc été beaucoup plus scalables et ont pu finalement continuer à fonctionner sans trop de problèmes, alors que les petites ont dû parfois faire avec des bouts de ficelle pour maintenir la disponibilité, et parfois au détriment de la sécurité.
Et pour les petites, ça arrive comment? C'est quoi? C'est un email frauduleux avec une pièce jointe qu'on envoie à des milliers de personnes? Comment ça se passe?
Alors souvent, c'est plus indolore que ça au départ, c'est-à-dire que l'intrusion se fait de façon tout à fait souterraine. Moi, je peux vous prendre l'exemple d'une société de production vidéo, 15 personnes, qui se retrouvent du jour au lendemain avec des serveurs en local infectés et qui découvrent à l'occasion simplement d'un mail exigeant de rançon, que ces fichiers sont inaccessibles. Elle vérifie, effectivement, les fichiers sont cryptés, gros fichiers, c'est de la vidéo. Et à ce moment-là, se pose tout de suite la question de savoir s'il faut payer, pas payer. Souvent, les rançons, d'ailleurs, sont adaptées aux moyens des entreprises. Donc là, c'était une rançon de quelques milliers d'euros. Alors évidemment, payer, ça entraîne le phénomène. C'est donc à déconseiller fortement. Néanmoins, qu'on est une petite entreprise et qu'on veut repartir très rapidement, c'est parfois une solution, en tout cas à utiliser en dernier ressort, parce qu'elle n'est pas automatique. C'est-à-dire que même en payant, vous n'avez jamais la garantie que vos fichiers puissent être décryptés.
Bernard Barbier disait à l'instant, finalement, il ne porte pas plainte parce qu'on n'ose pas, parce qu'on paye la rançon. les petites PME, voire même les toutes petites entreprises, elles vont en justice, elles payent la rançon, elles osent le dire, est-ce que...
Alors, elles n'osent pas le dire. En général, vous avez un chiffre qui est intéressant, un chiffre qui vient du CESIN, qui est le club des responsables sécurité, qui dit que 47% des entreprises aujourd'hui portent plainte. Seuls 47% des entreprises. Et sur ces 47%, 15% des plaintes simplement abouties. Ce qui veut dire que les investigations sont très compliquées, que la cybercriminalité, la lutte contre la cybercriminalité a souvent été le parent pauvre, finalement, depuis des années, dans cette prise en compte des cybermenaces et qu'il faut aujourd'hui, de façon très urgente, renforcer les moyens à la fois dévolus aux investigations, les moyens également du parquet chargé de lutter contre la cybercriminalité, avec sans doute aussi des priorités au niveau européen.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'à la section cybercriminalité du parquet de Paris, 148 procédures pour attaque au rançongiciel ont été ouvertes en 2019. Ce nombre est passé de 436 en 2020. Et on sait bien qu'il y a que 3 personnes, je crois, au parquet qui travaillent sur ces dossiers-là. C'est trop peu, finalement.
C'est trop peu. Je pense que c'est aussi une question, évidemment, de formation. C'est-à-dire qu'il faut former des enquêteurs, il faut former des magistrats. La formation, le volet humain est absolument essentiel. Il est essentiel dans la réponse qui est donnée par les autorités étatiques, dans la réponse apportée par les entreprises, puisque l'ANSSI ne pourra pas tout faire. Je dirais les entreprises privées qui interviennent sur ces sujets de cybersécurité sont évidemment en première ligne. Et donc, il faut renforcer d'abord la formation des spécialistes en cybersécurité et bien sûr aussi développer la sensibilisation des individus, à la fois d'ailleurs pour leur vie privée, puisque finalement, on est tous confrontés à ces questions dans notre vie privée, et en même temps, bien sûr, pour leur vie professionnelle.
Voilà, le débat est planté. On continue bien sûr à en parler avec vous également, 39-21. Je vous attends bien sûr au standard sur Europe 1. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
19h28 sur Europe 1, c'est le débat du Club des Idées. On parle des cyber-attaques ce soir sur Europe 1 avec Guillaume Tissier, directeur associé de Avisa Partners, cabinet de conseil en intelligence économique, avec Bernard Barbier, ancien directeur technique de la DGSE, et avec Jean-Claude Tapia, président d'Atos Digital Sécurité. Justement, Jean-Claude Tapia, je voudrais qu'on soit vraiment très très concret. Comment reconnaître, lorsqu'on en est une petite entreprise, un petit patron, ou même un particulier, qu'on est en train de se faire cyberattaquer ?
En fait, il est assez compliqué de reconnaître qu'on se fait cyberattaquer, parce qu'il y a des attaques qui sont directes. Des attaques non techniques, d'ailleurs, mais toutes les attaques ne sont pas techniques, des attaques de type ingénierie sociale, convaincre un individu de donner ses mots de passe, de donner son numéro de compte. Il y a des attaques peu techniques, c'est-à-dire qu'on s'expose sur Internet et évidemment, les malveillants vont rechercher sur Internet un certain nombre d'informations qu'ils vont exploiter par la suite. Puis il y a effectivement, vous venez de l'évoquer, des attaques extrêmement techniques de type ransomware. C'est assez compliqué. Par contre, le consommateur ou l'internaute doit être beaucoup plus acteur que spectateur. On parle beaucoup de sensibilisation. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on parle souvent du comportement des internautes, du fait qu'ils doivent être sensibilisés et ne pas s'exposer. La première chose, c'est déjà la formation, comme vous venez de l'évoquer. C'est-à-dire qu'il faut déjà expliquer ce que représente cet environnement numérique dont tout le monde parle. C'est un écosystème quand même complexe, qui repose sur des technologies complexes, qui mettent en scène de nombreux acteurs, dont l'internaute, bien entendu, qui font l'objet de nombreuses menaces. Ce n'est pas concret, ça, pour un internaute. Ce n'est pas concret. Quand on parle de voiture, de sécurité routière, c'est concret. Quand on parle de cybersécurité et de numérique, ce n'est pas concret, sauf pour les spécialistes. Donc là, il y a un effort, à mon sens, à faire de formation. Et il faut, quelque part, à l'instar un peu du label éco-responsable, revendiquer celui de cyber-responsable. On parle aujourd'hui de smart city, de smart building, etc., de smart territoire. On ne parle jamais du smart citoyen.
Mais par exemple, moi je reçois tous les jours, mais comme nous tous, des cookies, etc. Est-ce que tout ça, ce sont des vecteurs finalement de virus ? Je reçois également, cet après-midi, je recevais encore des mails, vous savez, en tête d'une banque, en tête d'un service public, d'un site de e-commerce. Ça peut être aussi derrière des cyberattaques déguisées ?
Ça peut être des cyberattaques déguisées. C'est pour ça que on parle
beaucoup
du comportement de l'internaute. Il faut d'abord éviter de s'exposer. Il faut éviter d'ouvrir des mails quand on ne connaît pas l'émetteur. Et notamment, on peut surtout ne pas ouvrir les pièces jointes. Bon, ça, c'est un petit peu les basiques. Mais je crois que de manière plus globale, il faut revoir un peu sa relation avec l'information. Aujourd'hui, nous sommes tous clients et consommateurs d'informations.
On peut pas être passif. On ne peut pas uniquement attendre simplement du marché des solutions miracles, de l'État régulateur, un arsenal réglementaire, des entreprises, administrations, des exigences de protection des informations qu'on leur confie. Ouais. Il faut aussi être acteur de sa propre sécurité. Hein. C'est votre voiture, vous êtes acteur de votre sécurité.
39-21, bonsoir Francis.
Bonsoir à tous.
Vous nous appelez de Nancy, Francis.
Oui, et j'ai pendant des années travaillé dans le domaine des télécommunications et des réseaux.
Ouais.
Chez France Télécom, British Telecom, Hewlett Packard, etc. Et je démarrais il y a 30 ans mes conférences ou mes réunions avec des clients qui étaient en général des grandes entreprises en disant la sécurité à 100% existe. Je marquais un temps d'arrêt et je disais existe.
Ça, c'était il y a 30 ans.
Oui, parce que ça fait 30 ans qu'on nous explique que la sécurité à 100% n'existe pas. Ouais. Moi, j'ai une petite entreprise aujourd'hui. Mon système de gestion est impiratable. Pourquoi il est impiratable ? Parce qu'il n'est pas sur Internet. Donc, si vous voulez, vous avez des postes qui sont sur Internet et vous avez des postes qui ne sont pas sur Internet. Tout le système de gestion n'est pas sur Internet. Et n'a pas besoin, dans mon cas, d'être sur Internet.
Donc, ça veut dire ça veut dire que pour vous, qu'il faut avoir vraiment des données sur Internet et en effet tous les fichiers, pas forcément sur Internet de l'autre côté ou sur un disque dur à part, par exemple.
On peut mettre en place un certain nombre de choses. Enfin, là, vous avez des spécialistes qui en savent autant que moi ou plus que moi, qui pourront le confirmer. Mais si vous ne voulez pas avoir d'ennuis avec Facebook, vous n'êtes pas sur Facebook. Si vous attendez que le législateur, le dernier intervenant vient de le dire, si vous attendez que le législateur vous sorte d'affaires, mais le législateur, il a toujours un train de retard. C'est comme dans la lutte contre le dopage. On va interdire 3 nouvelles molécules, mais il y en a déjà 5 d'avance. Et là, c'est pareil. Les gens qui développent, moi, j'ai travaillé chez Hewlett Packard en réseau. Les gens qui développent, ils développent avec des délais sur des projets sur lesquels parfois il n'y a pas tout à fait la compétence, etc. Donc il y a des portes d'entrée absolument partout, y compris chez Microsoft, chez Google et ailleurs. Et donc vous n'aurez jamais la possibilité. Quel que soit le système de sécurité que vous allez mettre avec le dernier qui fait sa publicité à la télévision, etc., vous n'aurez jamais la possibilité de vous sécuriser par l'outil informatique, puisque par définition, l'outil informatique est violable.
Ouais. Guillaume Tissier, je vous vois réagir aux propos que tient un instant Francis.
Je partage le constat que, effectivement, la segmentation, le cloisonnement, c'est la solution, c'est l'une des solutions, pardon. En revanche, il est quand même un peu illusoire aujourd'hui de vouloir maintenir des systèmes totalement à l'abri, au sens où, ne serait-ce que pour une mise à jour, avec une clé USB, vous pouvez infecter. Donc c'est compliqué quand même aujourd'hui, même sur des systèmes industriels, et on le sait, qui sont souvent des systèmes anciens, peu mis à jour, souvent pour des simples besoins de supervision, de remontée de logs, voire de pilotage à distance maintenant, parce que notamment avec le télétravail, évidemment, un certain nombre de besoins sont apparus. C'est très compliqué de les maintenir. Donc, en revanche, là, je vous rejoins totalement sur le fait que le by design, c'est-à-dire le fait que les éditeurs logiciels, les fabricants de systèmes doivent prendre en compte davantage la cybersécurité, à la fois lors du développement de l'outil pour faire du by design et en même temps tout au long du cycle de vie, ça c'est une réalité. Et aujourd'hui, imposer, renverser un peu, si vous voulez, la charge de la responsabilité de l'utilisateur final qui est toujours montré du doigt parce qu'il ne met pas à jour, etc., et remettre un peu cette charge davantage sur les éditeurs, je pense que c'est une bonne chose.
Merci Francis de nous avoir contacté au 39-21. Bernard Barbier, ancien directeur, je rappelle, ancien directeur technique de la DGSE. On parlait à l'instant des petites entreprises qui sont concernées, qui sont visées. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que les entreprises ont la capacité de paiement.
D'abord,
sur des proies faciles, on va dire.
Oui, c'est des proies faciles parce qu'ils sont très mal protégés. Hein, parce que pour se protéger, c'est un coût, donc elles sont très mal protégées. Il faut savoir que les hackers ont mis en place des systèmes de scanning automatique des réseaux. Donc ils trouvent les failles automatiquement et ils vont automatiquement finalement déclencher, chiffrer les disques durs. Et après, effectivement, le problème, c'est le paiement. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, je pense, qui sont incapables de payer et qui, à ce moment-là, mettent la clé sous la porte. Mais il faut voir, hein, c'est que, en fait, on est dans un système très, très, très automatisé. Souvent, les hackers ne savent même pas à qui ils ont affaire en face. Hein. Ils ne ciblent pas. Ils font un système, je dirais, c'est du travail. C'est des attaques massives, en fait.
Ouais. Alors, justement, Vous venez de poser la question, on va tenter d'y répondre. Qui sont ces hackers? Qu'est-ce qu'il y a? Qui y a derrière finalement? Ce sont des groupes organisés? Ce sont des pirates solitaires?
Alors il y a trois niveaux en fait hein, pour moi. Bon, il y a, je dirais, le hacker classique, c'est le jeune geek qui est dans son garage, ouais. Mais qui est de moins en moins tout seul en fait. Hein. Ensuite, à l'extrême, bah, il y a les hackers qui sont payés, qui sont fonctionnaires ou payés par l'État. Et là, ce qui est très grave, c'est que dans certains pays, en fait, il y a ce que j'appelle des cybercorsaires. Hein. Je pense que la Russie, la Corée du Nord, des pays comme ça, utilisent énormément de cybercorsaires. Hein. C'est-à-dire que c'est des hackers privés, mais payés par l'État pour agir.
Ah oui.
Et puis, il y a aussi toute une mafia. Hein. Il y a tout un système mafieux avec une répartition des tâches. Hein. Donc, il y a des gens, des experts techniques qui ouvrent les portes, qui trouvent les failles. Elles vendent ces failles sur le dark web, hein, donc ces failles sont vendues à des mafias qui, elles, vont exploiter, vont déclencher la rançon et vont récupérer la rançon. Donc on a tout un système assez organisé à plusieurs niveaux. C'est ce qu'on appelle les ransomware as a service. Hein, et c'est extrêmement bien organisé. Et tout ça, en fait, c'est dans le dark web. Les gens, tous ces hackers communiquent dans le dark web pour échanger leur savoir-faire, leurs astuces. Il y a même une répartition du travail, en fait.
Les professionnels disent qu'il y a beaucoup de lettres en alphabet cyrillique dans les codes. Donc, il y aurait beaucoup d'attaques provenant des pays de l'ex-URSS.
Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même, dans ces pays-là, il y a quand même des gens très, très bons en informatique, en mathématiques. Hein, donc, je pense qu'ils ont des problèmes d'emploi. Il y a des gens qui sont au chômage et effectivement, ils trouvent des revenus en devenant finalement en participant à ce phénomène de cybercriminalité.
Jean-Claude Tapia, je rappelle que vous êtes président d'Atos Digital Security. Finalement, j'ai le sentiment qu'il y a un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire quoi que ceux qui sont hackés doivent payer la rançon et puis basta. Et comment se paie ensuite la rançon? J'imagine que c'est quoi? C'est par des crypto-monnaies? Comment ça se passe?
Alors, c'est souvent par des crypto-monnaies, mais en fait, il faut apprendre à vivre avec les incidents numériques et les incidents de cybersécurité, comme nous avons appris à vivre avec les accidents de la route. Hein. Ouais. C'est un petit peu ça que ça veut
oui,
dire.
Enfin,
les rançons, aujourd'hui, si on regarde par exemple les rançons, les rançons sont adaptées à la cible. Vous allez demander 1 000 euros à un internaute et vous allez demander 2 millions, 3 millions d'euros à une ESN ou à un institutionnel. Donc, les cybercriminels savent très bien ce qu'ils font. Non. C'est un sujet en mouvement permanent, c'est-à-dire qu'il faut en permanence réactualiser nos approches, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient au niveau de l'internaute, du consommateur, que ce soit au niveau des entreprises et des administrations. Hein. Et puis, encore une fois, je pense qu'il faut, vous avez parlé de système d'information, d'abord un système pour le protéger, il faut en connaître les contours. C'est très compliqué de protéger un système dont on ne connaît pas les contours. Quand on est une TPE, une PME, on a du mal à se protéger parce qu'on n'a pas de moyens, mais on arrive à peu près à cerner les contours de son système. Quand on est une grande entreprise ou une PME importante, c'est quand même beaucoup plus difficile de cerner le contour de systèmes qui ont 20, 30 ans d'existence et qui côtoient des systèmes qui ont 1 an, 6 mois, 3 mois d'existence. C'est très complexe. Donc, c'est une approche un peu, il faut revoir un petit peu, à mon avis, nos approches et notre relation avec ce qu'on appelle les systèmes d'information et notre relation avec l'information. Surtout que nous soyons acteurs.
On va continuer à en parler dans un instant. Un chiffre avant de marquer cette pause. En 2020, les rançongiciels représentaient au moins 350 millions de dollars de revenus. C'est quand même fou. Allez, on continue à en parler et à en parler avec vous. Hein, 39-21, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
19h41, on poursuit, on termine notre débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse aux cyberattaques. On en parle avec Guillaume Tissier, qui est directeur associé de Avisa Partners, cabinet de conseil en intelligence économique. Bernard Barbier, ancien directeur technique de la DGSE. Et puis Jean-Claude Tapia, président d'Atos Digital Security, bien sûr avec vous au 39-21. Bonsoir Abdelkarim.
Oui, bonsoir à vous. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer.
Vous nous appelez des Hauts-de-Seine, on vous écoute.
Oui, écoutez, bah, concernant la cybercriminalité, moi, le constat que je peux faire, c'est que bah, nous, le citoyen lambda, bah, lui, il est spectateur, et on observe qu'il y a une gradation dans le négatif, et il me semble que cette gradation, elle ne peut pas être contrôlée, et on la subit, et même ceux qui ont le pouvoir de décider et d'agir, d'anticiper les choses, bah, je pense qu'ils sont pris au dépourvu. Parce que là maintenant, ça prend des proportions qui sont folles quand on arrive à un point de pouvoir rançonner comme au Moyen-Âge dans les forêts, rançonner les voyageurs, les commerçants, etc. Je veux dire que ça devient fou, quoi.
C'est vrai.
Et ça devient et ça échappe au gouvernement.
Merci à vous, Abdelkarim, de nous avoir contactés. Merci beaucoup. C'est vrai que Abdelkarim a totalement raison. C'est ce qu'on disait finalement. Il y a une forme d'impuissance, Guillaume Tissier.
Je pense pas qu'il y ait de l'impuissance au sens où il n'y a pas de fatalité et que on est quand même sur un environnement numérique qui est récent, qui explose aujourd'hui et ça a encore été accéléré ces derniers mois. Et donc il y a un ensemble de réponses. Il n'y a pas de réponse miracle, mais en revanche il y a quand même un ensemble de réponses qui permettent de traiter
on va voir lesquelles le
sujet.
Je suis patron de PME, de TPE par exemple. J'écoute Europe 1 ce soir. Concrètement, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place? On n'a pas forcément des sommes folles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces cyberattaques?
Informer et sensibiliser son personnel. Deux, au plan opérationnel, utiliser des systèmes peut-être dans le cloud computing. Ce n'est pas une solution miracle, mais ça permet souvent d'externaliser une partie de son informatique dans des conditions de sécurité supérieure. Alors après, se posent d'autres contraintes, notamment en termes de souveraineté, qui est un sujet corollaire du sujet de la cybersécurité opérationnelle. Il peut aussi y avoir un certain nombre de dispositifs simples qui permettent de sécuriser l'informatique qui resterait en local, la mise à jour des ordinateurs, indispensable, et surtout procéder à des analyses de risque, parce qu'il y a des choses qui doivent être protégées beaucoup plus que d'autres. Et cette analyse de risque doit être un peu le moteur. Ça permet de savoir où on met ses dépenses, voire son investissement, parce qu'un point important, c'est que c'est aussi un élément clé de la relation clientèle.
Bien sûr, bien sûr. Mais justement, je suis patron d'une TPE, d'une PME, je peux faire appel à une boîte extérieure pour gérer ça, et combien ça me coûte? Est-ce que c'est un investissement coûteux pour ma boîte?
Alors c'est effectivement une contrainte, c'est toujours un coût. Ça peut devenir un investissement parce qu'encore une fois, qu'on soit en B2B, voire même en B2C maintenant, vous avez une attente de la part des clients sur la cybersécurité, voire une exigence de cybersécurité. Et donc, on peut transformer ce coût en avantage. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de fatalité. On peut faire des choses à des coûts assez raisonnables. Alors, ce que je crois, c'est que les entreprises aujourd'hui doivent utiliser les services de prestataires de confiance, que ce soit à travers l'ANSSI ou à travers également Cybermalveillance, qui est un dispositif, un groupement d'intérêt public qui s'est mis en place depuis déjà quelques années avec des acteurs publics et privés et qui aujourd'hui offre des prestataires référencés sur son site, y compris d'ailleurs pour le grand public. Donc c'est à la fois les citoyens, je dirais, de tout le monde et en même temps les ETI, les PME.
Donc moi je suis patron de PME ou TPE, je peux appeler l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSSI, pour qu'on m'aide et pour qu'on me conseille.
Oui, ou le dispositif donc cybermalveillance. Il y a eu 100 000 appels l'année dernière, donc vraiment en croissance forte, de la part de citoyens qui étaient directement concernés par notamment des arnaques.
Toujours pour être très concret, Jean-Claude Tapia, président d'Atos Digital Security, je suis patron d'une boîte, toujours. Mon premier réflexe, ça va être de payer la rançon pour vite revenir à la normale. Je ne dois pas faire ça.
Vous n'avez parfois pas le choix. Quand vous donnez son crypté et que vous ne pouvez plus travailler et offrir les services que vous êtes censé offrir, malheureusement, parfois, il n'y a pas d'alternative si vous n'avez pas pris quelques précautions, comme externaliser des sauvegardes en espérant qu'elles ne seront pas polluées également.
Ouais.
Mais il ne faut pas oublier qu'une PME, une TPE, elle a quand même ses partenaires. Elle a ses partenaires informatiques, elle a ses partenaires assurantiels. Il faut aussi qu'elle s'adresse à ces partenaires-là et qu'elle essaye de travailler avec ses partenaires avant même de s'adresser à des experts. Il n'y a pas aujourd'hui une PME ou une TPE qui n'ait pas une relation avec un partenaire informatique. Donc, dans sa négociation contractuelle, dans sa relation quotidienne qu'elle a avec ce partenaire, elle doit en parler avec lui.
Il y a des manipulations à faire, je pense à couper Internet, les réseaux, débrancher l'ordinateur.
En cas d'attaque, bien sûr, quand on la détecte, il y a des manipulations à faire. Et la première chose, comme vous venez de le dire, c'est de couper, c'est d'isoler.
D'isoler
et après d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire même si on a l'impression d'avoir résolu le problème, s'assurer qu'il est bien réglé et qu'il n'y a pas un autre logiciel malveillant dormant.
Ouais. Bernard Barbier, je rappelle que vous êtes ancien directeur technique de la DGSE. Il y a combien d'attaques en France On le disait en début de débat, il y a combien de magistrats spécialisés pour combien d'attaques en France aujourd'hui ? Référence, on va dire. Hein.
Au niveau du parquet, il y a très peu de magistrats. Hein. Il y a un parquet spécialisé à Paris.
C'est ça. Je crois qu'ils sont trois, c'est ça.
Après, ce qu'il faut voir, c'est aussi le problème, c'est que la cyber est complètement non localisée. Hein. Ouais. Les attaquants viennent de pays très lointains. On a beaucoup de mal à les identifier. Donc, le nombre de gens qui sont vraiment, je dirais, détectés, identifiés et ensuite condamnés est extrêmement faible. Hein. Il y a ça aussi qui est très important, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un accord. Par exemple, il y a souvent, certains pays refusent finalement les enquêtes internationales. Ouais. Quand vous identifiez, par exemple, une adresse potentielle en Russie, personne ne vous répond.
Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune coopération internationale, ce que vous êtes en train de dire.
Si, il y a une coopération. Ouais. Par exemple, récemment, il y a eu un énorme... Il y a eu tout un groupe qui a été arrêté en Ukraine parce qu'il y a eu effectivement une très grosse coopération avec les services ukrainiens. Ouais. Mais dans certains pays comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Nord, c'est impossible. Donc il y a une impunité qui est quand même extrêmement forte pour ces malfrats et qui fait que ça renforce finalement l'intérêt de gagner de l'argent en utilisant ces technologies. Quoi.
Je reviens en France, on disait à l'instant, le parquet ne comporte que trois magistrats spécialisés. Pourquoi il y a si peu de moyens en France s'il y a autant de cyberattaques ?
Je pense que M. Tessier le disait bien, c'est qu'il y a un problème de... Il y a un problème de ressources humaines. Hein. Il faut former donc des magistrats qui ont une formation juridique. Et il faut leur donner après une formation technique. Donc et ça c'est extrêmement rare et difficile. Hein. Donc je pense qu'on est au début d'une évolution. Hein. Tout ça va changer fortement. Alors après au niveau des enquêteurs, bon, il y a par exemple la gendarmerie a énormément investi dans la cyber depuis une dizaine d'années, mais la police, disons le ministère de l'Intérieur et la police, elle commence. Mais là, au niveau de la justice, je pense qu'on on démarre. Quoi.
Ouais. Allez, pour terminer, très rapidement, Guillaume Tissier, on va être très concret. L'un des gestes les plus simples pour éviter ces cyberattaques, c'est quoi ? C'est garder toujours les applications, serveurs et systèmes d'exploitation à jour. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Oui, c'est la première chose.
Ça, c'est la première chose.
C'est pas une garantie absolue, mais il faut le faire.
Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Enregistrer constamment nos données, avoir un disque dur à côté ?
Contre les ransomware, il est clair que la sauvegarde et la sauvegarde déportée est la seule parade possible.
Je termine avec Jean-Claude Tapia, là encore très concrètement. Est-ce qu'il existe des logiciels perfectionnés pour éviter ces attaques ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Des logiciels perfectionnés pour éviter les attaques, non. Pour se défendre, pour les détecter et se défendre contre ces attaques, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Bon, c'est une piste, évidemment. Hein. C'est une piste qui est perçue par la plupart des spécialistes comme une avancée très profitable à notre société. Mais vous voyez, même sur ce point-là, c'est forcément, ça va apporter beaucoup de choses pour se protéger, mais ça va aussi être une cible et peut-être même un outil pour les criminels. Mmh. Donc, à chaque évolution, il faut se poser un certain nombre de questions.
Et on l'a compris, il faut passer aussi un coup de fil, si l'on peut, à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Il y a des entreprises privées intéressantes spécialisées dans la prévention ?
Ah bien sûr.
Guillaume Tissier en parlait tout à l'heure.
Il y en a beaucoup, et il y en a notamment beaucoup qui seront présentes en septembre au Forum international de la cybersécurité que nous co-organisons avec la Gendarmerie nationale. Et on a la chance en France d'avoir un écosystème riche, diversifié, avec plusieurs centaines d'entreprises très innovantes sur ce domaine.
Et pas cher, pas cher quand on est une petite TPE, une petite PME.
Vous avez tout un éventail de solutions et de services. Il ne faut pas oublier l'aspect humain, l'aspect service également.
Bien sûr. C'était passionnant. Merci à vous, messieurs. Guillaume Tissier, directeur associé de Avisa Partners. Bernard Barbier, ancien directeur technique de la DGSE. Jean-Claude Tapia, président d'Atos Digital Sécurité. Grand merci à vous trois, messieurs.
Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Dans un instant, le jour où, on va revenir sur le combat autour du Pax. Puis vous retrouverez bien sûr Émile Mazoyer. Mais tout de suite, on se met déjà dans l'ambiance, la musique d'Europe Soir avec Néné Chéri sur Europe 1.
Try to reason me. They
Woman, c'était Néné Chérie dans Europe Soir.
Europe 1, Thierry Dagiral.
8h05, le jour où tous les soirs on s'arrête sur un événement du passé, une date, une histoire. Ce soir, Isabelle Bigné et Hélène Terzian reviennent sur le combat autour du Pax.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Europe 1.
Bonsoir Hélène Terzian.
Bonsoir Isabelle.
Le pape François a défendu le droit à l'union civile pour les couples homosexuels. L'union civile, c'est l'équivalent en France du PACS, hein, le pacte civil de solidarité, qui est entré en vigueur en novembre 1999, ce qui a donné lieu, Hélène, à des débats houleux. Hein.
Oui, et la chef de file des anti-PACS, c'est Christine Boutin. Elle est députée UDF à l'époque et à la tribune de l'Assemblée nationale dans son tailleur bleu ciel, foulard et médaille de la Vierge Marie autour du cou. Elle prononce dans la nuit du 3 au 4 octobre 1998 un discours fleuve, 5h25, le plus long discours prononcé dans l'hémicycle.
Pourquoi l'homosexualité ne peut être érigé en homme légal? Qu'est-ce que l'homosexualité? Vous êtes grotesque. Vous êtes vraiment grotesque.
Un discours qui fera jurisprudence puisqu'après, il ne sera plus possible de dépasser 1h30 au pupitre de l'Assemblée nationale. Autre fait marquant, selon certains, Christine Boutin aurait même brandi une Bible en plein hémicycle parce qu'elle a une crainte, c'est que ce texte ouvre la possibilité aux homosexuels de se marier et d'adopter un enfant.
Alors qu'à l'époque, Hélène, il s'agit uniquement de donner un cadre légal à deux personnes de sexe différent ou de même sexe, hein, qui veulent organiser leur vie commune.
Oui, et ce pacte est défendu par le Premier ministre Lionel Jospin d'ailleurs. Lors des débats, il monte au créneau et s'attaque sans la nommer à Christine Boutin.
C'est l'obstination dans l'obstruction. C'est le choix de confier sa vision de ce problème de société à une députée marginale sur ces questions et outrancière dans ses propos qui a créé des problèmes.
À ce moment-là, Christine Boutin fond en larmes derrière son pupitre. Elle tente d'approcher Lionel Jospin à tel point que les huissiers doivent intervenir. Les débats se poursuivent, les invectives, parfois des injures homophobes, fusent dans l'hémicycle. Majorité et opposition se déchirent, mais dans les rangs de la droite, il y a une voix dissonante. Roselyne Bachelot, c'est la seule parlementaire RPR à défendre le PACS, très émue à la tribune.
Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien oui, bien sûr. Mais qui mieux que des homosexuels pouvait, à partir de leur expérience de solitude, de rejet, de mépris, faire le diagnostic des difficultés qui rongent notre société? Ils et elles ne veulent ni le dégoût des saintes ni touches, ni la commisération des dames patronesses. Car finalement, nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République.
Et il n'y a pas que dans l'hémicycle, hein, Hélène Terzian, le débat se cristallise aussi dans l'espace public.
Oui, les anti-PAX se mobilisent le 31 janvier 1999. Ils sont 100 000 dans la rue pour faire retirer le texte. Parmi eux, ce manifestant, et vous allez l'entendre, en 20 ans, les arguments n'ont pas changé.
Ce qu'on défend, c'est l'avenir de la société, l'avenir de tous, l'avenir des jeunes. Et on n'a rien inventé de mieux pour aider un enfant à se lancer dans la vie que d'avoir un papa et une maman, c'est-à-dire une famille structurée.
Après un an de bataille parlementaire, plus de 2000 amendements, le PACS est finalement adopté. La loi est promulguée le 15 novembre 1999 et le premier PACS enregistré en France, c'est celui de deux hommes à Lille, trois jours plus tard.
Merci beaucoup Hélène Terzian de nous avoir fait revivre ce moment, ce temps très fort.
Europe Soir, le 18-20.
Après Thierry 20 heures. Mais oui. Vous avez rendez-vous avec Émilie Mazoyer après 20h. Merci à Naïma Bencheman, Victor Chabert, Harold de Caron et Christophe Pierrot qui m'ont aidé à préparer ce 18-20. On se donne rendez-vous demain dès 18h. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Europe 1.